Chapitre 6. Les deux hommes étaient seuls dans un compartiment de première classe du train express à destination de Marseille, ce qui procura un certain réconfort à Henry James. Pendant les trois premières heures du voyage, aucun d'eux ne parla. James faisait semblant de lire un roman, tandis que Holmes était caché derrière le Times. Soudain, sans prévenir et sans préambule, il abaissa son journal et dit « Vous aviez aussi une barbe à l'époque. » James leva les yeux et le dévisagea. « Pardon ?» Il finirait par s'habituer au brusque changement de sujet de Sherlock Holmes et aux remarques inopinées qu'il lançait parfois sans lien avec la situation, mais pas ce jour-là. Pas encore. « Il y a 4 ans, expliqua Holmes, lorsque je vous ai été présenté à la garden party chez Madame T.P. O'Connor, vous portiez déjà la barbe. » James garda le silence. Il la portait depuis la guerre de sécession. C'est en partie grâce à elle que je vous ai reconnu dans le noir au bord de la Seine, ajouta Holmes avant de se replonger dans son journal. Voyant un moyen d'agacer son agaçant compagnon, James prit enfin la parole. J'aurais pensé que le détective privé le plus célèbre du monde se fierait à d'autres détails physionomiques qu'une simple barbe pour reconnaître quelqu'un. Holmes rit. Bien sûr, je m'intéresse à la physiognomonie, pas seulement à la pilosité faciale. Je suis, par exemple, un expert en matière d'oreilles. Vous ne vous souveniez même pas que nous avions été présentés, dit James, ignorant l'allusion ridicule aux oreilles. C'est faux, s'esclaffa Holmes. Je me souviens qu'à l'époque, en apprenant qu'un Américain du nom de James serait à la garden party, j'avais espéré qu'il s'agissait de votre frère, le psychologue, avec qui je souhaitais discuter de plusieurs choses. En 1888, William n'avait pas encore publié ses principes de psychologie, répliqua James. C'était un inconnu. Comment auriez-vous pu vouloir lui parler? Votre mémoire vous joue des tours, monsieur Holmes. Détrompez-vous. Des amis en Amérique, amis qui partageaient à certains égards ma vocation particulière, m'avaient envoyé des copies des différents articles de psychologie de votre frère, des années avant la sortie de son ouvrage. Mais la principale raison de ma distraction lors de notre rencontre chez Madame O'Connor, Monsieur James, c'est qu'à cet instant précis, j'observais mon suspect, le voleur de bijoux, en pleine action. Nous l'avons pris la main dans le sac, comme aurait dit Watson. Un simple domestique, vous l'avez mentionné hier soir, commenta James en baissant les yeux vers les caractères impénétrables du roman posé sur ses genoux. Il était trop perturbé pour lire, ce qui était exceptionnel chez lui. Un simple domestique, mais vivant dans l'intimité de votre Lady Wolseley, précisa Holmes. James faillit en lâcher son livre. L'un des domestiques de Lord et Lady Wolseley, coupable d'un vol de bijoux? Impossible! Absurde! Pas du tout. Lord Wolseley m'a embauché pour faire la lumière sur une série de délits dont étaient victimes ses amis propriétaires de jolies résidences de campagne. Mais il n'aurait pas dû se donner la peine de s'adresser à moi. N'importe quel agent de police moyennement compétent aurait pu résoudre cette affaire. Il ne m'a fallu que quelques heures pour savoir qui c'était, ou du moins réduire la liste des coupables possibles. Voyez-vous, les vols avaient commencé dans différentes grandes maisons anglaises d'Irlande. Dans toutes, en fait, sauf celle de Lord Wolseley et de quelques aristocrates anglais là-bas qui avaient perdu les faveurs de Lord et Lady Wolseley. Henry James voulut protester une fois encore, pour d'obscures raisons personnelles ainsi que logiques, mais il ne trouva pas les mots. Le principal voleur était un dénommé Guermont, poursuivit Holmes. Robert Jacob Guermont. Un caporal-chef d'un certain âge qui avait été l'ordonnance du général, Lord Wolseley, lors de différentes campagnes militaires avant de devenir son valet. Il faut reconnaître que le caporal-chef Guermont n'avait pas le physique d'un voleur de bijoux. Il avait un visage long comme le museau d'un basset et les mêmes yeux lumineux, tristes et sensibles. Cependant, il suffisait de consulter la liste des vols commis dans les garnisons de Lord Wolseley au fil des années, puis dans les demeures des amis du général en Irlande, et aussi en Angleterre aux dates des différentes visites là-bas de Lord et Lady Wolseley, pour que l'identité du cerveau de l'affaire, même si le titre est beaucoup trop grandiose pour lui, s'impose, même à l'esprit le moins déductif. Au moment où vous et moi faisions connaissance à la Garden Party, Monsieur James, j'observais en secret le caporal-chef Guermont en train de commettre son larcin. Il était très adroit. James se sentit rougir. Au fil du temps, il avait été amené à côtoyer plusieurs des principaux domestiques de Lord et Lady Wellesley, d'anciens soldats du général pour la plupart. Guermont lui avait été attribué comme valet personnel pendant son seul séjour en Irlande, dans la propriété de Lord Wellesley. James avait senti une étrange affinité avec son valet à la voix douce et aux yeux tristes. James ne fut pas ravi de devoir partager une cabine avec Holmes sur le pari, même si elle était de première classe et satisfaisait à leurs besoins. Ils avaient pris leur billet si peu de temps avant l'appareillage, avait expliqué Holmes, qu'il ne restait que cette cabine à deux lits, libérée grâce à une annulation. « Peut-être auriez-vous préféré voyager dans l'entrepont, ce qui, je le sais d'expérience, possède ses charmes particuliers. Je ne souhaite pas voyager du tout sur ce navire, ni sur aucun autre », avait répliqué James. En dehors des heures de sommeil, les deux hommes se virent peu. Holmes ne se rendait pas à la salle à manger pour le petit déjeuner, pourtant très bon, ni pour le déjeuner, et on ne l'aperçut que rarement à sa place attribuée à la table du capitaine, où tous les soirs, en smoking, James s'efforçait de faire la conversation aux aristocrates français, aux hommes d'affaires allemands, au capitaine à barbe blanche, semblant avant tout intéressé par sa nourriture, et à l'unique dame anglaise de la tablée, une douairière presque folle qui ne cessait de l'appeler Monsieur Jane. James passait autant de temps que possible à explorer la modeste bibliothèque du navire, qui ne proposait aucun de ses livres, même en traduction, à arpenter le pont pourtant assez peu spacieux, ou à écouter l'occasionnel récital décousu ou le petit concert donné pour distraire les passagers. Mais par deux fois, James surprit Sherlock Holmes dans des moments éminemment intimes et embarrassants. La première fois, le détective n'affichant ni surprise ni embarras, ce fut après le petit déjeuner, quand James retourna à leur cabine pour se changer. Holmes était allongé sur son lit, toujours en chemise de nuit, une sorte de garrot noué en haut de son biceps gauche et retirait l'aiguille d'une seringue de la chair tendre au creux de son coude. Sur la table de chevet, celle qu'il partageait et sur laquelle James posait son livre au moment de l'extinction des feux, se trouvait une fiole d'un liquide sombre que James devina être de la morphine. La prise et les effets de la morphine ne lui étaient pas inconnus. Il avait vu sa sœur Alice se perdre dans ses brumes dorées, s'éloignant de toute humanité, dont la sienne, pendant des mois avant sa mort. Le médecin d'Alice avait même appris à Catherine Loring à administrer la bonne quantité de produits, au cas où personne d'autre n'aurait été disponible. James n'avait jamais eu à pratiquer l'injection pour sa sœur agonisante, mais il s'y était préparé. En plus de la morphine, Alice avait aussi eu recours à l'hypnose au cours des derniers mois, entre autres efforts concertés pour alléger une souffrance en apparence infinie. Cependant, à la connaissance de James, Sherlock Holmes ne souffrait d'aucune douleur physique. Il était seulement devenu dépendant à la morphine, après avoir été dépendant à la cocaïne par injection pendant des années. Et il lui avait déjà fait part de son impatience à trouver et essayer cette nouvelle drogue héroïque, mise au point par M. Bayer, puisqu'elle était disponible aux États-Unis. Holmes n'avait pas l'air gêné du tout. Regardant James dessous ses paupières lourdes, il avait tranquillement rangé son flacon, sa seringue et le reste de son matériel dans une petite trousse en cuir que son compagnon de voyage lui avait déjà vu porter, pensant qu'il s'agissait de son nécessaire de rasage, puis avait souri d'un air endormi. Dégoûté et ne faisant aucun effort pour le cacher, James avait tourné les talons et quitté la cabine sans s'être changé pour mettre ses vêtements de promenade. Un autre moment d'une intimité désagréable survint le quatrième soir après que le navire eut quitté Dublin, quand James entra dans la cabine après avoir frappé machinalement, pour trouver Holmes nu devant leur table de toilette sur laquelle était posée la cuvette et un petit miroir. Cette fois-là non plus, Holmes n'afficha pas l'embarras qu'il aurait dû et ne se hâta pas d'enfiler sa chemise de nuit, malgré le malaise évident de son compagnon de chambre. Ce n'était pas la première fois que Henry James voyait un homme nu. Si la nudité masculine suscitait chez lui des réactions compliquées, la première était toujours une pensée morbide. Lorsqu'il était encore un bambin, Henry suivait partout son frère William, d'un an son aîné. Il n'avait pas pu, ni voulu, l'accompagner ensuite dans ses tumultueux jeux d'enfants en plein air, mais plus tard, quand William avait décidé de devenir un artiste, Henri avait résolu d'en être un également. Chaque fois que possible, il accompagnait son grand frère aux leçons de dessin et de peinture payées par leur père. Un jour, en pénétrant dans l'atelier de Newport, Henri avait découvert Gus Barker, son cousin orphelin, posant nu pour le cours de dessin d'après nature. Profondément ébranlé par la beauté du jeune homme aux cheveux roux, son teint pâle, son sexe flasque d'aspect si vulnérable, le rose si féminin de ses tétons ressortant sur sa peau blanche, Henri avait feint un intérêt purement artistique, jetant un coup d'œil critique au dessin de William et des autres, comme s'il s'apprêtait à prendre une feuille et un fusain pour capturer à son tour ce pouvoir ineffable de la nudité. Surtout, la fibre littéraire en lui s'éveillant plus sûrement qu'une quelconque conscience sexuelle, le jeune Henry James avait été fasciné par sa propre réaction complexe et trouble face au corps exhibé de son cousin. Le jeune Gus Barker avait été le premier de leur cercle familial et amical à mourir durant la guerre de Sécession, fauché par la balle d'un artilleur confédéré en Virginie. Pendant des dizaines d'années après ça, Henry James n'avait pu se rappeler son émoi devant la beauté de cette forme nue sans penser à ce même corps, aux moustaches cuivrées des poils pubiens, aux veines sur les bras musclés, aux cuisses pâles étonnamment puissantes, en train de pourrir sous l'humus dans un champ inconnu de Virginie. Puis il y avait eu Wilkie, le jeune frère de Henry James, grièvement blessé durant l'attaque désastreuse et mal préparée du 54e régiment noir du Massachusetts contre Fort Wagner en Caroline du Sud. Il avait été retrouvé par pure coïncidence dans un poste chirurgical de l'armée et sauvé par William Russell, un ami de la famille, qui cherchait son fils Cabot, mort sur le champ de bataille. Wilkie était en si piètre état à son retour à la maison qu'il avait fallu le laisser sur son brancard souillé dans le hall d'entrée pendant des semaines. James avait vu ses parents baigner leur enfant mutilé et la découverte du corps de Wilkie lui avait causé un autre choc. La terrible blessure dans le dos, d'où la balle confédérée n'avait pas encore été extraite, et la plaie répugnante au pied. Cette balle-là avait été retirée lors d'une opération chirurgicale sommaire sur le bateau qu'il avait ramené dans le nord, montrant des signes de pourrissement et un début de gangrène. La première fois où il avait vu son frère nu sur le lit de camp, alors que leur mère le manipulait délicatement après avoir découpé l'uniforme malodorant, James avait été frappé par la totale vulnérabilité du corps humain au métal, au feu, à la lame et à la maladie. Quand on le tournait sur le ventre et qu'il hurlait pour lui faire sa toilette et que les deux blessures étaient visibles, Wilkie James ressemblait plus à un cadavre d'une semaine qu'à un vivant, qu'à son frère. Il y avait aussi l'autre Holmes que James avait vu nu. Vers la fin de la guerre, Oliver Wendell Holmes Jr., son ami d'enfance, de 2 ans son aîné, mais alors vieilli de plusieurs décennies par ses expériences de guerre, était venu lui rendre visite à Boston, puis l'avait accompagné à North Conway, où vivait Minnie Temple, la cousine de James, avec ses sœurs. Pendant cette première nuit à North Conway, cet autre Holmes et le jeune James avaient été contraints de partager une chambre spartiate et un unique lit affaissé, avant de trouver une location plus convenable le lendemain, et James, déjà en pyjama sous les couvertures, avait vu, à la lumière de la lampe, Oliver Wendell Holmes Jr. nu devant leur table de toilette et son miroir, comme Sherlock Holmes ce soir-là sur le Paris, tanguant quelque part dans l'Atlantique Nord. Le jeune James s'était une fois encore extasié devant la beauté du corps masculin mince et musculeux en voyant Oliver Wendell Holmes dans la lumière ce soir-là. Mais le lien avec la mort était de nouveau très visible. De terribles cicatrices se déployaient telles des toiles d'araignée sur le dos, les flancs et le haut de la jambe d'Oliver. Cet autre Holmes, le Holmes de James, avait lui aussi été grièvement blessé à la guerre et en était si fier qu'il en avait ensuite parlé pendant des dizaines d'années, donnant des détails en général prohibés devant les dames. Celui qui allait devenir un célèbre juriste avait tenu à conserver son uniforme déchiré et ensanglanté, encore imprégné d'une odeur de poudre à canon, de sang et de crasse, à l'instar du lit de camp, de la couverture et de l'uniforme coupé de Wilkie, et n'allait pas s'en séparer au cours des décennies suivantes. Il le sortait du placard à l'occasion, lorsqu'il retrouvait d'autres anciens combattants pour converser et fumer le cigare, et il leur montrait le sang depuis longtemps séché et les trous effilochés qui correspondaient si parfaitement aux cicatrices blanches que James avait remarquées sur la peau nue de son ami d'enfance. Pour James, ça avait été un autre aperçu non seulement de la beauté du corps masculin, mais des graffitis mutilants laissés par la grande faucheuse pour rappeler la mortalité de ce corps. Malgré le choc, Henry James ne fut donc pas surpris de voir, dans la faible lumière de la cabine, que M. Sherlock Holmes avait le dos marbré de cicatrices. Elles semblaient aussi à vif que les blessures par balles que James avait vues sur la chair de Wilkie et d'Oliver, mais elles rayonnaient vers l'extérieur, comme des marques de coups de fouet que se serait infligé un flagellant fanatique.
« Excusez-moi, »
dit-il, figé dans l'embrasure de la porte de la cabine.
« Je ne... »
Ne sachant qu'ajouter, il s'arrêta là. Holmes se retourna vers lui. Son torse pâle aussi était lardé de cicatrices. James eut le temps de remarquer qu'en dépit de l'extrême maigreur de cet homme de haute taille, il avait les flancs presque creux comme certains coureurs et autres athlètes, M. Sherlock Holmes, dont la peau à la lumière de la lampe avait un éclat aussi blanc que celle de son cousin Gus Barker, était une masse de muscles noueux qu'il semblait prêt à bander pour quelque action urgente.
« Excusez-moi, »
répéta James avant de ressortir. Ce soir-là, il resta dans le salon de première classe, à fumer et lire un magazine sans intérêt, jusqu'à ce qu'il soit certain que Holmes serait endormi avant de retourner dans la cabine. Le Paris, très en retard sur son horaire déjà peu ambitieux, entra dans le port de New York en début de soirée, quand la silhouette de la ville se découpait en ombre chinoise au soleil couchant. La plupart des paquebots transatlantiques que James avait pris au fil des années pour revenir d'Europe avaient atteint New York de bonne heure le matin. Il s'aperçut que cette arrivée tardive n'était pas seulement plus plaisante d'un point de vue esthétique, James ne supportait plus l'esthétique de New York, mais semblait plus appropriée à leur mission secrète. Holmes l'avait rejoint sans y être invité sur le pont, d'où James regardait le balai des remorqueurs et l'intense circulation portuaire, écoutant les sirènes, les cloches et les cris d'un des ports les plus actifs du monde.
« Intéressante cité, n'est-ce pas ?» demanda Holmes.
« Certes, » répondit seulement James.
Lorsqu'il avait quitté l'Amérique 10 ans plus tôt, il s'était juré de ne pas y revenir. De retour à Londres, il avait consigné dans des essais ses impressions sur son pays et sur New York. La ville elle-même, où James avait passé des années de ce qu'il considérait comme une enfance heureuse dans leur maison près de Washington Square Park, avait tellement changé qu'elle n'était plus reconnaissable. Entre les années 1840 et 1880, écrivit-il, elle était devenue une cité d'immigrés et d'étrangers. Le savoir-vivre et les certitudes qui prévalaient à cette époque où Washington Square était encore à moitié rural avaient cédé la place à une verticalité agressive, à ces arrivées d'étrangers à l'odeur et à la langue inconnue. Une fois, James avait comparé les Juifs des ghettos du Lower East Side à des rats et autres nuisibles, courant à toute vitesse entre les pieds de leurs prédécesseurs anglo-saxons distraits et soudain minoritaires. Mais il admirait aussi le fait que ces immigrés publiaient plus de quotidiens en hébreu qu'il n'en paraissait en anglais dans la ville. Qu'ils avaient créé un grand nombre de théâtres yiddish qui distrayaient plus de gens tous les soirs que les établissements de Broadway, que les Juifs, tout comme les Italiens et autres groupes d'immigrés de basse extraction dont la plupart des Irlandais, avaient si bien planté leurs pénates dans la Nouvelle New York, s'accrochant elles des berniques à ce fier rêve d'Amérique partagé par tant de ses habitants qu'il serait impossible de les en déloger. Henry James avait eu l'impression d'être un étranger dans son propre pays, dans sa propre ville, et ce thème était sans cesse revenu dans ses essais. Il n'en dit pourtant rien, alors que Holmes et lui observaient les dernières manœuvres pour amarrer le vieux paquebot le long des quais en pleine activité.
« Vous vous demandez sûrement comment j'ai su que vous portiez les cendres de votre sœur Alice l'autre nuit au bord de la Seine. »
commença Holmes très doucement. Les passagers jouaient des coudes et se poussaient pour se faire une place le long du bastingage, mais une bulle d'intimité semblait entourer les deux hommes.
« Absolument pas, »
répondit James d'une voix tout aussi douce, mais beaucoup plus intense.
« Vos conjectures folles et inexactes ne m'intéressent pas le moins du monde, monsieur Holmes. »
« J'étais là-bas depuis plus longtemps que vous, » poursuivit Holmes en regardant les navires, les bateaux-pompes, les barques et l'agitation tout autour. Mes yeux avaient eu le temps de s'habituer à l'obscurité. Je vous ai vu sortir plusieurs fois la petite tabatière d'ivoire, la tenir d'une manière presque pieuse, la remettre dans votre poche de poitrine, puis la reprendre. Je savais que c'était une tabatière d'ivoire, seul l'ivoire brille de cette façon dans une si faible lumière, et j'ai aussi su immédiatement que vous ne prisiez pas.
Vous ne connaissez rien à mes habitudes.
La voix de James n'aurait pu être plus froide, ni plus indifférente à cette conversation non sollicitée. Mais en raison de la foule derrière eux, il lui était impossible de faire volte-face et de s'en aller. Aussi se contenta-t-il de détourner le regard.
Bien sûr que si. Quelqu'un qui prise même de manière occasionnelle a des taches de nicotine sur le pouce et l'index.
Vous n'en avez pas. Par ailleurs, quelqu'un qui utilise une tabatière pour y prendre des pincées de tabac ne la scelle pas soigneusement avec de la cire à cacheter.
Vous n'avez pas pu remarquer ce genre de choses en quelques secondes dans l'obscurité, dit James. Son cœur cognait entre ses côtes.
Et pourtant, si. Ensuite, au moment où nous sommes repartis, j'ai allumé ma pipe pour en avoir confirmation.
Vous n'en avez pas eu conscience. Tenir la tabatière est devenu chez vous un réflexe, monsieur James, surtout dans un moment aussi intense.
Mais vous l'avez ressorti brièvement plusieurs fois après que nous nous étions éloignés du fleuve.
Je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'un simple talisman pour vous.
C'était un objet sacré.
James se retourna pour fusiller du regard cet indiscret et fut stupéfait de voir qu'il avait retiré les lentilles bleues qui avaient dissimulé la véritable couleur de ses yeux. Les yeux gris et furieux de Henry James croisèrent les yeux gris et calmes de Sherlock Holmes.
Lorsque je me trouvais en Inde, j'ai appris par le Times le décès de votre sœur en mars 1892 et plus tard vu l'annonce des funérailles et de la crémation d'une Mademoiselle James à Woking. Il était précisé que la compagne de votre sœur, Mademoiselle Catherine Peabody Loring, remporterait les cendres en Amérique pour qu'elles y soient inhumées dans le caveau familial de Cambridge.
Toujours silencieux, James continua de darder son regard noir sur Holmes. Il se réjouissait d'être accoudé au bastingage du navire, car il craignait d'être malade.
Ce soir-là, au bord de la Seine, j'ai compris tout de suite que vous vous étiez approprié un peu des cendres de votre sœur, sûrement à l'insu de Mademoiselle Loring et de votre famille, que vous les aviez mises à l'abri dans cette tabatière d'ivoire hors de prix et que vous les transportiez quelque part.
Mais où ?
Sûrement pas seulement au fond de la Seine.
James n'avait pas le souvenir de s'être jamais fait insulter de cette manière si personnelle. Son frère William aurait sûrement cassé la figure de ce Holmes. Mais Henry James n'était pas William. Jamais de sa vie il n'avait serré le poing dans l'intention de cogner quiconque. Il ne le fit pas non plus à cet instant. Il continua de dévisager l'anglais avec colère.
« Je pense que vous envisagiez peut-être de retourner en Amérique, » conclut Holmes.
« Avant que votre mélancolie ne vous submerge à Paris. C'est parce que vous aviez déjà songé à ce voyage que vous avez fini par changer d'avis cette nuit-là et par accepter de m'accompagner dans cette mission. Peut-être pensiez-vous répandre les cendres de votre sœur dans un lieu important ? Sacré pour vous deux.
Ça ne me regarde pas, évidemment. Et comme je respecte votre deuil, monsieur, je n'aborderai plus ce sujet. Je l'ai fait uniquement pour vous familiariser avec certaines de mes plus simples méthodes de travail fondées sur l'observation et le raisonnement.
Je ne suis pas impressionné, monsieur, dit James quand il réussit enfin à parler.
C'était faux. Malgré lui, il était très impressionné. On approchait le vieux paquebot du quai comme on mène une matrone vers un buffet bien garni. Les marins français, à la proue et à la poupe, s'apprêtaient à lancer les bouts avant que des câbles massifs ne les amarrent solidement à l'Amérique.
Vous m'excuserez, monsieur Holmes. J'ai oublié quelque chose dans la cabine. Je vous retrouverai quand vous aurez passé la douane.
Le détective hocha la tête, apparemment perdu dans ses pensées. James savait que Holmes, voyageant sans doute avec un faux passeport norvégien au nom de Jan Sigurdsson, devrait faire la queue un certain temps, tandis que lui, expatrié de cœur mais toujours possesseur d'un passeport américain, passerait la douane après une inspection des plus sommaires. Il ne se hâta pas moins de retourner à la cabine en espérant que les porteurs n'avaient pas encore emporté leurs malles et bagages. Ce n'était pas le cas. James referma à clé la porte de la cabine derrière lui, déverrouilla sa malle, sortit de son tréfonds un coffret en acajou et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, la garniture de velours présentait un creux de la dimension qu'il avait demandé.
James prit la tabatière de son gilet, la posa délicatement dans le coffret en acajou, le referma, referma la malle, s'assura qu'il avait son passeport et ses papiers dans sa mallette, et quitta la cabine juste au moment où les porteurs venaient chercher les bagages.